شرقطة شرق وقطع وجري ميت يترقى شرقطة 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 الباط وانا قطعته وانا الرقعة شرقطة 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 لا 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 طريق البليدة بعيدة ونزلوا طاكسي طريق البليدة طريق البليدة شوفر لي وراهم قالوا لي خلصي يا 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 شرك وقطع وجري ميت يترقي عاه قادي ربح ودير امه كي البارح في البرباح كي البارح فوق المطرح هي الباطونة قطعته وانا الرقعه قادي ربح ودير امه كي البارح في البرباح كي البارح فوق المطرح بين العينين وعند الفايقين الامور يا الامور لامور 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 قلبه بقلبه وقلبه بقلبه قلبه بقلبه وندير لحبيبي غير اللي يبغى الامور يا الامور لامور 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 عشقي بالبقرة وصحابي يفلو يا 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 عشقي بالخضرة اللي بيعوا القرو يا 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 وخلق لاصة واللي ذقه ينسيقا يا مول العمامة مول العمامة مول العمامة وجاب حمامة شابا يا 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 شرقطة 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 شرق وقطع وجري ميت يترقي عاه يا 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 يا
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, excusez-moi. Vous venez d'entendre, donc c'est Jeudi Noir, avec Jean Mathias, Sophie, José au platine et Michel, ici, présent, qui vous parle. Et vous venez d'entendre un morceau de Sheikha Rimiti, c'est ça José ? Et donc une chanteuse algérienne, et c'est une chanson qui avait fait scandale dans les années 50, une chanson sur le viol.
La perte de la virginité.
Sur la perte de la virginité, oui. Ben un truc un peu, oui, légèrement plus joyeux. Voilà. Et alors ce soir, donc, nous sommes en France, hein, pays des droits de l'homme, des lois antiterroristes et de la contre-insurrection. Et donc, ben Jean-Mathias, ce soir, va nous parler d'un livre, d'un ouvrage d'extrême droite, on peut le dire.
Oui, on n'est pas loin. Ouais.
On n'en est pas loin, de David Galula, qui s'appelle Contre-insurrection.
Un livre patriote.
Théorie et pratique. Et en fait, c'est un livre qui a eu un succès complètement incroyable, puisqu'il est encore utilisé par l'armée américaine pour mater justement les partisans de la guérilla. Donc la guérilla, bon, c'est une pratique sans doute vieille comme la guerre. Pour dire les choses simplement, on peut dire que c'est une pratique et aussi une théorie de la guerre sans bataille. C'est-à-dire que si on est beaucoup plus faible que l'adversaire d'un strict point de vue militaire, on peut essayer d'attaquer par exemple ses points de ravitaillement, de fuir quand il arrive, d'attaquer ailleurs, etc., etc. Et évidemment, pour une armée conventionnelle, c'est pas forcément quelque chose d'évident, comme on a pu voir au Vietnam, en Indochine, en Algérie aussi, peut-être dans une autre mesure, en Afghanistan et ailleurs. Mais évidemment, comme pour plein d'autres choses, ceux qui subissent la guérilla réfléchissent aussi et élaborent des stratégies afin de contrer ces pratiques qui les ennuient. Voilà, alors Jean-Mathias, et puis oui, il voulait coupler ça aussi, alors ça c'est pour ajouter, l'ignominie à l'infamie. Il voulait ajouter à ça un petit commentaire d'un livre de Carl Schmitt, un affreux juriste nazi. Il faut le dire, qui est occupé de hautes positions dans les instances nazies de l'époque, en tant que juriste, et qui a une théorie politique calquée finalement sur un modèle guerrier, puisque pour lui, la politique doit se penser à partir de la distinction ami-ennemi, et que Jean-Mathias fait l'hypothèse que le bouquin sur la contre-insurrection est quasiment la deuxième partie du bouquin de Schmitt. Voilà, Jean-Mathias, après cette longue introduction, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as à dire?
Je vais peut-être expliquer un petit peu pourquoi je propose ces deux bouquins-là aujourd'hui à l'émission, parce que au fond, en fait, tu dis effectivement, tu as présenté ça comme une émission dédiée à l'extrême droite aujourd'hui. Alors évidemment,
c'était pour te voir te débattre après.
Je vais me débattre. En fait, je vais dire que on propose une émission dans la tradition situationniste, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans la tradition de l'étude stratégique. Les situationnistes, en leur temps, ont été de grands découvreurs et rééditeurs, notamment de textes de stratégie classiques et puis plus moderne.
Et Debord avait même inventé un jeu de stratégie, le Krieg Spiel.
Absolument, avec cette idée assez simple que finalement, effectivement, si on est dans une perspective révolutionnaire, mais aussi tout simplement si on cherche à comprendre les phénomènes de guerre tels qu'ils existent concrètement et réellement dans le monde où on vit, eh bien, il faut en passer au moins à un moment donné par la lecture des textes de stratégie. Qu'on veuille faire la guerre un jour ou qu'on veuille comprendre comment elle se pratique si on l'a subie notamment. Alors en fait, donc du coup les deux textes là que je voulais présenter ce soir, c'est d'une part la théorie du partisan de Carl Schmitt, donc tu en as dit deux mots, c'est un texte de 62 et donc le livre Contre-insurrection de David Galula, qui est un officier de l'armée française, qui a effectivement combattu pendant la guerre d'Indochine et pendant la guerre d'Algérie, et qui a tiré de l'expérience de la défaite, d'une double défaite, un manuel de contre-insurrection, qui, comme tu l'as dit aussi, et c'est ça qui est aussi intéressant, parce que ça prolonge en quelque sorte les analyses de Schmitt, hein, ce manuel sert encore de texte de référence dans les écoles de guerre, notamment américaines, mais pas seulement, aussi chez nous, en France, mais en particulier, effectivement, aux États-Unis, il a connu un grand succès au moment de la guerre du Vietnam, mais aussi pendant les deux guerres du Golfe. Et donc là, la préface, notamment, c'est aux éditions Economica, et la préface est du général d'armée Petraeus, qui était le chef du corps expéditionnaire américain en Irak. Donc voilà, donc en fait, évidemment, je ne sais pas, c'est pas pour...
On a l'air fin de parler de ça juste après si Wispakem, hein.
Oui. Ils n'ont rien vu, on est d'accord. Non mais évidemment, on peut avoir et une lecture critique pacifiste de ce type de texte, et aussi une lecture tout simplement critique, sans forcément avoir une ligne pacifiste là-dessus. Mais c'est évidemment dans cet esprit-là que ça me paraissait intéressant d'en discuter. Alors, je précise aussi que aussi bien Schmitt que Galula sont des références, par exemple, qui sont citées constamment, un petit peu à tort et à travers d'ailleurs, par nos camarades du Comité Invisible. Aussi bien dans l'insurrection qui vient que dans le dernier texte qu'ils ont publié là à nos amis. Et donc ce sont des références sur lesquelles ils travaillent eux beaucoup, parce que évidemment ça sert aussi de modèle pour comprendre aussi bien les politiques d'État lorsqu'ils sont ouvertement en guerre que lorsqu'ils ne le sont pas ouvertement, et ce qui est lorsqu'on a affaire, par exemple, on est en pleine actualité, à une guerre contre le terrorisme, contre la terreur, ou contre, dans les versions plus religieuses, contre l'axe du mal, si je reprends les formules un peu maladroites de du deuxième de George Bush 2 là.
Donc alors George Bush Junior, appelle le Junior.
Alors donc il y a toutes ces dimensions là. Il y a aussi, ça me paraît aussi intéressant d'en parler sur une antenne libertaire, parce que en ce qui concerne Carl Schmitt notamment, il y a parfois, alors aussi paradoxal que ça puisse paraître, un certain nombre de camarades libertaires qui empruntent, sans forcément mesurer du coup les conséquences de ça, des catégories politiques à Schmitt.
Et pourquoi ils font ça ?
Parce que tu as les... Alors bon, je vais dire deux mots rapidement. Et
pourquoi
de Schmitt, et puis de sa notion, son concept de politique. Alors Schmitt, tu l'as dit, Michel, c'est un juriste, un éminent juriste, qui est en fait, alors, été membre du parti nazi, mais qui représente ce qu'on peut appeler... qui est plutôt dans les franges ultra conservatrices de la classe politique allemande, et qui donc effectivement en a croqué complètement au moment du régime nazi. Là, il y a aucune ambiguïté là-dessus. Il a été condamné après-guerre. Il a eu une longue période de traversée du désert parce qu'il était compromis jusqu'au cou, par des textes, par des justifications, etc.
Par des positions officielles aussi qu'il avait occupées.
Absolument. Absolument. C'était un des dignitaires du régime. Mais plus que l'aspect directement racialiste, on va dire, de l'idéologie nazie, il était plutôt sur cette frange, la frange ultra-conservatrice, on va dire, de la classe politique, c'est plutôt ça, son option. Et sa grande idée, je mets grande entre guillemets, c'est au fond de dire que la politique, au sens large, ne peut se comprendre et de manière réaliste que si elle repose sur des distinctions, sur des antagonismes en fait fondamentaux entre ceux qu'on considère comme des amis et ceux qu'on considère comme des ennemis. C'est-à-dire qu'il prend en fait à contre-pied toutes les théories dominantes de la philosophie politique moderne, qui ont plutôt tendance à penser la politique comme l'art de faire la paix une société donnée, en créant un État de droit, en créant des libertés individuelles, également bien sûr en justifiant les missions régaliennes de l'État qui sont censées garantir ces libertés.
Et donc, mission régalienne étant la justice, la police et l'armée.
Police, justice, armée. Donc évidemment, il y a un pouvoir de contrainte de l'État. Mais la tradition ultra-dominante dans la pensée politique moderne, au moins depuis les théories du contrat, c'est plutôt effectivement le comment construire un État de droit qui permette de pacifier, d'une certaine manière, la vie sociale.
D'assurer un maximum de paix, tout en garantissant un minimum de liberté.
Exactement.
On regarde ça comme ça.
Et Schmitt, d'une certaine manière, prend complètement à contre-pied cette tradition-là en disant qu'elle est profondément hypocrite et que la nature même de la politique, c'est pas de faire la paix, mais c'est de faire la guerre. Et que quand on fait la guerre, eh bien, la distinction fondamentale, c'est celle entre l'ami et l'ennemi, et que donc il est hypocrite et il est parfaitement vain de chercher à imaginer des mécanismes ou des institutions qui permettraient d'assurer la paix entre les parties, que ça soit à l'intérieur d'une société sur un territoire national par exemple, mais aussi bien évidemment à l'échelle internationale. Schmitt est par exemple un de ceux qui a donné à Hitler et puis aux nazis les outils pour s'aborder, critiquer du point de vue idéologique le projet de société des nations dans les années 30, qui était donc l'idée qui reposait sur l'idée d'une communauté internationale. Évidemment, il est tout aussi critique et tout aussi
allergique à ce genre d'idée.
Allergique au projet de l'Organisation des Nations Unies, à toute idée de communauté internationale qui serait construite dans une visée pacifique, parce qu'il y voit en fait une idéologie de domination qui ne dit pas son nom. Alors, c'est là où certains, évidemment, camarades peuvent être tentés de reprendre à leur compte, non pas, évidemment, les positions politiques de Schmitt, hein, mais la charge un peu critique qu'il peut y avoir derrière ça, c'est-à-dire le fait de critiquer, finalement, le consensus international comme une espèce de violence guerrière déguisée, qui en fait ne désigne pas des ennemis mais leur tape dessus sans le dire en fait, hein. Et donc il y a l'idée qu'effectivement la politique est au fond est essentiellement un art de faire la guerre et que le plus honnête est encore de le dire. Hein. Alors ça c'est sur les dans un texte de Schmitt qui s'appelle La notion de politique, donc qui est plus ancien, qui date des années 30.
Et ça fait penser à la phrase de Clausewitz.
Oui.
C'est la guerre et la politique menée par d'autres moyens. Mmh. Je crois qu'elle avait été retournée par Foucault.
Tout à fait.
Qui avait dit que la politique.
C'est la guerre continuée par d'autres moyens.
La guerre continuée par d'autres
et
moyens.
Et en ça, Foucault est parfaitement dans la ligne de Schmitt.
D'accord.
Et moi, je comprends pas. Quand il parle d'amis et d'ennemis, en fait, il parle d'amis et d'ennemis qui sont objectivement là ou éventuellement d'ennemis que tu peux créer de façon à avoir plus d'amis.
Tu peux pas tenir un discours politique réellement consensuel. C'est ça son idée. C'est-à-dire que
qu'il y a forcément des ennemis quelque part.
Il y a forcément
d'accord.
des ennemis. Tu ne peux construire un. Tout discours politique doit désigner un ennemi.
Et va polariser.
D'accord.
Et doit polariser et désigner un ennemi. C'est-à-dire. Et c'est ce qu'il fait en pratique d'après lui. Donc tout discours politique et toute politique au sens large désigne un ennemi et du coup désigne effectivement ceux solidaire et voilà, de qui tu te sens solidaire et encore une fois l'honnêteté consiste à le dire. Et Schmitt, l'honnêteté c'est pas ça qui l'étouffe non plus, hein, si vous voulez, on est d'accord, mais évidemment on voit dans le contexte qui a pu être celui des années 30 quelle pouvait être l'utilité aussi tactique et idéologique d'un discours comme celui-là. Alors, ça, c'est pour le
un petit point de contexte. Je citais Foucault à dessein pour rappeler deux, trois bricoles.
Oui. Mais c'est pas des bricoles, moi, je pense, c'est pas des détails.
Non, c'est pas des détails, hein, mais ouais. Bon, c'est un euphémisme. C'est que tu parlais de certains camarades libertaires qui pourraient être tentés de reprendre Schmitt parce que, effectivement, son discours a une certaine potentialité critique. Mais il faut voir aussi que la plupart des philosophes de gauche, dits de gauche, des années 60-70, ont aussi repris Schmitt. Il n'y a pas que Foucault.
Bien sûr.
Derrida aussi a énormément commenté Schmitt.
Aujourd'hui,
pas Deleuze, à ma connaissance.
Non.
Mais c'est quelqu'un qui a été un petit peu comme Heidegger. Ouais. J'y reviens. N'en déplaise à certains de nos auditeurs. Enfin, j'en pense en particulier à un. Hein, tu te reconnaîtras, mon cher. Je ne le citerai pas à l'antenne parce que bon.
Non.
Voilà. Mais ouais, c'est une fois de plus.
Ça fait partie des nazis qui sont devenus effectivement fréquentables après-guerre.
Ouais.
Assez vite en France.
Avec Junger, Schmitt et Heidegger, on a une trilogie, enfin, je sais pas, une trinité, comme on voudra, parce qu'ils les adorent. Enfin bon, bref.
Alors bon, donc ça c'est pour le cadre général et du coup les tentations peut-être un peu maladroites, on va dire, de certains camarades d'aller chercher des ressources de ce côté-là. Il y a la référence à Foucault, tu l'as donnée, elle me paraît hyper importante parce qu'en fait effectivement, d'une certaine manière, on peut dire que Foucault participe du processus de blanchiment des idées de Schmitt, voilà, dans une version dite gauchiste. Bon, donc ça, la notion de politique, c'est ce texte cadre un petit peu qui fait référence. C'est Schmitt, c'est les années 30. Et le deuxième texte, celui qui m'intéresse plus ce soir, c'est un texte plus tardif, donc c'est les années 60, qui s'appelle La théorie du partisan. Alors, qui est, elle, plus historique, mais qui finalement prolonge les analyses de Schmitt dans les années 30, et qui s'intéresse, alors, aux guerres de partisans, alors, c'est-à-dire effectivement à ce qu'on appelle aussi parfois la guérilla, qui essaie de proposer finalement une espèce d'histoire de la guérilla, en montrant, il voit l'apparition de la guérilla au moment de la résistance espagnole à l'occupation de Napoléon. Et donc c'est là où on a affaire aux premières guerres de partisans d'après lui. Et surtout, ce que Schmitt a en vue dans les années 60, c'est en fait le dépassement et le perfectionnement total de ce type de guerre dans les révolutions communistes au XXe siècle, et en particulier dans la révolution chinoise. C'est-à-dire que son idée, c'est de dire que les maîtres, justement, de la guerre de partisans, c'est Lénine et surtout Mao, et qui ont en quelque sorte radicalisé et clarifié tout ce qui était en germe en quelque sorte dans les guerres de partisans du 19e siècle, dans la mesure où précisément ils ont défini une forme d'ennemi absolu à l'égard duquel finalement aucune règle de guerre conventionnelle ne devait être respectée, hein. Et particulièrement dans le cas chinois d'après lui. Et on est dans les années 60, et évidemment,
Mais ce grand cynique nous parle des règles de la guerre.
Ah non, il ne dit pas. Il ne juge pas ni Mao ni Lénine. Il est admiratif de leur réussite tactique.
D'accord.
Hein, il est admiratif de leur réussite tactique.
Parce qu'il paraît que les manuels militaires conseillent dès le 19e siècle de bombarder les populations civiles pour détruire le moral des troupes, par exemple.
Tu parles des règles de guerre, tu vois, c'est ça qui me.
Oui, alors le point important, c'est celui de savoir si tu peux. Alors, les manuels militaires le conseillent, mais le droit international le condamne. Le droit international le condamne et le droit international est officiellement respecté par les belligérants. Le droit international est officiellement respecté par les belligérants. Bien évidemment, ils s'empressent de s'asseoir dessus en pratique.
Mais pas par la guérilla.
Évidemment pas par la guérilla, mais la guérilla va mettre le fait en... Alors, comment ça se passe, si vous voulez, donc rapidement sur la théorie du partisan. Les caractéristiques de la guerre de partisan, c'est quoi? C'est qu'on a essentiellement une asymétrie des forces en puissance, c'est-à-dire qu'évidemment, sur un champ de bataille, vous avez d'un côté des gens qui sont mal armés, mal organisés, pas hiérarchisés, pas forcément entraînés. Et enfin, vous avez des armées dites régulières, justement, qui sont organisées, avec une intendance, avec un armement lourd.
Qui devrait gagner normalement.
Qui, sur un champ de bataille conventionnel, gagne à tous les coups. Voilà. Et évidemment, le partisan, c'est celui qui va justement réfléchir à une tactique lui permettant d'inverser une situation qui, au départ, est asymétrique. Alors, c'est une guerre qui est particulièrement efficace, d'après Schmitt. En fait, elle gagne. Il y a des circonstances dans lesquelles elle ne peut pas perdre, d'après lui. Et c'est une idée qui va être repris par Galula après. C'est-à-dire que dans certains types de pays, c'est-à-dire en fonction de certaines conditions géographiques, certaines conditions sociales, certaines conditions de développement économique également, une tactique de guérilla, si elle est menée sans erreur, est forcément victorieuse. Et évidemment, la question c'est de savoir comment décrire ça, comment expliquer ça, ce phénomène-là.
Donc il y a une tactique quand même, c'est un peu organisé pour lui.
Ah, complètement.
Ah, c'est très organisé. C'est tout à fait organisé. Alors l'enjeu.
Il y a un très beau texte du théorie de la guérilla dans les 7 piliers de la sagesse de Laurence, celui qu'on appelait Laurence d'Arabie. C'est T.I. et c'est pas D.H.
c'est pas le même.
C'est pas le même. Et ne pas confondre avec celui qui a écrit l'amant de Lady Chatterley. Mm-hmm. Et justement, lui, il était avec les Bédouins et il s'opposait aux Turcs. en fait, c'était un sous-marin. Enfin, c'était pas un sous-marin, c'était un officiel anglais qui avait rallié les Bédouins à sa cause et qui luttait contre les Turcs, qui avait une armée, puisque c'était le reste de l'Empire Ottoman. Et dans les 7 piliers de sagesse, pendant 100 pages, il développe toute une théorie de la guérilla, où il va expliquer comment, justement, dit voilà, on peut pas avoir de pertes parce que si on a des pertes, tout le monde s'en va. On peut pas non plus les affronter frontalement parce que autrement on perd. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est des attaques éclairs, c'est des attaques de points de ravitaillement, c'est des attaques de points de voies de transport, etc., etc. C'est la guérilla de ce point de vue-là, elle est complètement théorisée, réfléchie. Il y a pas de c'est pas d'improvisation du tout. Pour répondre à ta question.
Okay.
Du point de vue tactique, alors ça je cite, c'est dans l'introduction de la théorie du partisan de Schmitt par exemple. Qu'est-ce qui caractérise une guerre de partisans? L'irrégularité, c'est-à-dire effectivement l'absence de consensus sur des règles de droit qui permettraient éventuellement après, c'est-à-dire une fois que la paix est revenue, de juger les actes qui ont été commis. Le haut degré de mobilité du combat actif et le haut degré d'intensité de l'engagement politique. Et c'est évidemment une caractéristique qui est essentielle, ça, dans la théorie du partisan et dans la guérilla au sens large, c'est-à-dire qu'il s'agit de guerres qui ne peuvent se comprendre, donc asymétriques, première chose, et des guerres dans lesquelles le camp du partisan, le camp du guerriero, comme on dit, tire ses ressources principales d'une idéologie.
Il n'y a pas de mercenaires, donc?
Non,
t'es pas dans le mercenariat, t'es dans une guerre qui doit se présenter comme étant au service d'une cause.
Dans toutes les théories de la guerre, t'as une critique du mercenariat qui est assez active depuis Machiavel. C'est-à-dire que l'idée le mercenaire n'est jamais efficace, par définition. Et donc, évidemment, un guerrieros ne peut pas être un mercenaire.
Sinon il est balayé.
Et s'il devient mercenaire, il est plus guerrieros, il est mafieux.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il va passer son temps, finalement, à opprimer les populations locales pour obtenir de quoi vivre.
Ouais.
On va faire peut-être une pause, Jean-Mathias. Et puis, voilà, José va vous faire écouter de la musique, je vous dirai de quoi il s'agit après.
Les gros, quand la vie reste au chaud. antennes, on change la direction. T'es qu'un parasite, tu brouilles tes visions. Ça remonte à bien longtemps. Quand le vieux mort pour Ménorient, il se nommait Sonso. On le prenait pour un fou.
Bonsoir, vous écoutez, désolé, on était en train de dire des bêtises, comme d'habitude.
Sur les satires.
On va continuer à en dire sur les satires, voilà.
Sur la satire, je me rappelle plus.
Les satires. Mais je faisais référence à un personnage aussi qui n'aime pas trop qu'on parle des nazis. Donc, il se reconnaîtra s'il écoute l'émission et je pense qu'il l'écoutera à un moment ou à un autre. Donc, voilà, vous venez d'entendre Varum Joe pour un morceau qui s'appelle Sun Tzu, en référence
à l'art de la guerre,
un ouvrage célèbre. Et vous écoutez toujours Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie d'une émission consacrée donc à Carl Schmitt, le juriste nazi, et à, comment il s'appelle, David Galula, l'officier français héroïque qui a combattu les Indochinois et les Algériens pendant les guerres susdites.
Maintenant, il faut peser quand tu fais des blagues.
Ah oui, c'est vrai, pardon. C'était une blague.
Alors, non, c'est pas une blague sur les auteurs, mais c'est voilà, on recontextualise. Donc, on s'intéresse à deux traités finalement de théorie de la guerre qui nous viennent évidemment du camp d'en face, c'est-à-dire soit de fascistes assumés, soit de patriotes fascisants, dans le cas de Galula. Alors, je disais dans la première partie de l'émission, j'essayais de montrer comment Schmitt en était venu à s'intéresser aux guerres de partisans et comment il en avait fait une histoire intéressante sur le plan historique dans sa théorie du partisan, texte des années 60. Et donc, montrer comment la guerre de partisans se caractérise par justement l'irrégularité de la guerre, c'est-à-dire des troupes en jeu, par une asymétrie des forces. Et par un facteur idéologique et politique tout à fait décisif par rapport aux guerres conventionnelles. Alors, ce qu'il faut bien voir, ça s'inscrit effectivement. T'as parlé de Clausewitz tout à l'heure.
Clausewitz,
alors qu'il y a donc un militaire autrichien, un officier autrichien qui s'est battu contre les armées de Napoléon et qui a perdu lui aussi beaucoup. En général, les grands théoriciens militaires, c'est toujours des perdants, des mecs qui se prennent pile sur pile et puis effectivement après une
et
fois qu'ils sont rentrés.
Et on continue de s'inspirer d'eux en fait.
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent des piles et puis ils essayent après de voir pourquoi ils ont perdu.
Il y a un texte de Boris Vian qui explique tout ça, un texte magnifique que m'avait fait lire José il y a de nombreuses années, sur un texte sur les ratés de la guerre, où il dit finalement, regardez, qui forme les militaires, c'est ceux qui ont échoué à la dernière guerre, c'est ceux qui ne sont pas morts. Et si on réussissait nos guerres, c'est-à-dire si on arrivait à tuer tous les militaires, finalement il n'y en aurait peut-être plus des guerres. Mais là, effectivement, les ratés de la guerre, ils continuent d'écrire et de former de futurs militaires qui vont à leur tour échouer et qui vont recommencer.
Bon,
pour
bah,
réussir enfin.
Parfois, ils réussissent pour le meilleur ou pour le pire. Alors, dans le cas de Clausewitz, en deux mots, c'est donc celui qui est considéré comme le théoricien classique de la guerre moderne. Donc, il tire, lui, il est dans un cadre qui est celui des guerres napoléoniennes, où on a des armées, alors une armée nationale dans le cas de l'armée française, et puis des armées type ancien régime en face. Et derrière, en fait, il y a effectivement l'idée que c'est le traité de Vienne après les guerres de Napoléon, c'est-à-dire c'est un partage de l'Europe, un équilibre des forces, des chancelleries, qui se mettent d'accord sur un droit international, sur un droit de la guerre, et qui va verrouiller en gros l'Europe et puis les relations internationales pendant une bonne partie du 19e siècle.
En 100 ans.
Pendant un siècle, jusqu'à la guerre de 14 en gros, hein, donc on est dans ce cadre-là.
Parce que toutes les guerres intermédiaires sont des petites guerres par rapport à ce qu'il y avait pu y avoir en Europe auparavant.
Si on met de côté les guerres révolutionnaires ou les insurrections révolutionnaires type 48, commune, etc. Oui. Hein. Mais si pour ce qui est des guerres internationales, on est dans un cadre qui est celui classique défini par Clausewitz, avec cette idée, la formule de Clausewitz, tu l'as citée tout à l'heure, la guerre c'est la politique par d'autres moyens, on est toujours dans le cadre classique, c'est-à-dire que le but de la guerre c'est de trouver une paix avantageuse. Et donc, dans ce cadre-là, ça veut dire que la guerre n'est pas un moment de déchaînement ou de chaos absolu, c'est-à-dire qu'elle est censée, alors bien évidemment en pratique c'est jamais complètement le cas, mais elle est censée s'inscrire dans un cadre juridique et politique, c'est-à-dire qu'on est, y a des règles, il y a un droit de la guerre, un droit des gens, etc. Et ce qui change avec la théorie, avec les guerres de partisans, d'après Schmitt, c'est que tout ce cadre-là, finalement, vole en éclats. Donc ça commence effectivement un petit peu avec Napoléon, et évidemment ça devient parfaitement manifeste avec la Révolution russe, où on a là aussi une victoire militaire de la part du parti bolchevique et de forces militaires qui sont numériquement complètement
en même temps infimes. Trotsky n'était pas du tout un amateur de la guerre des partisans, c'est bien ce qu'il a reproché à Makhno.
Alors,
en Ukraine
il n'est pas partisan de la guerre des partisans une fois qu'il a gagné. Parce qu'une fois qu'il a gagné, effectivement, il s'agit de construire une armée nationale, entre guillemets, une armée révolutionnaire, une armée rouge, structurée, une armée régulière. Parce qu'il a mené une guerre, effectivement, contre aussi des puissances qui ont des armées régulières. Et évidemment, alors Makhno, lui, est dans une logique de partisan en Ukraine. Mais donc, il y a ce premier épisode-là, il y a la manière dont, finalement, Lénine, voilà, s'inspire des guerres de partisans du 19e pour en tirer une théorie des minorités agissante et finalement de la du coup d'État réussi, du coup d'État minoritaire motivé par une idéologie et un parti structuré de manière quasiment militaire. Et alors j'en viens pour terminer au cas chinois qui intéresse beaucoup Schmitt. Hein. On a dans le cas de la révolution chinoise, alors là, une guerre de partisans qui s'étend sur une vingtaine d'années, donc qui n'est pas comparable du tout avec la révolution russe, hein, une vingtaine d'années, et qui au départ démarre de rien, va s'appuyer sur une idéologie, mais qui va devoir être adaptée de fond en comble, parce que l'idéologie marxiste ne s'applique pas à un pays, à une majorité paysanne écrasante comme la Chine, donc il va falloir faire des aménagements, structurer la chose.
Oui, parce que les bolcheviks aussi ont pris le pouvoir dans un pays qui était majoritairement rural.
Bien sûr.
Sauf qu'ils l'ont pris à la faveur de. Enfin, ce que Lénine disait, c'est que le pouvoir était par terre, on a eu qu'à se baisser pour le ramasser et il était dans les villes.
Ouais. Et ils l'ont pris dans les villes.
Ils l'ont pris dans les villes, alors qu'effectivement,
les communistes chinois ont mis 20 ans, effectivement, donc, à construire le parti, à ajuster l'idéologie pour y intégrer le maximum de monde, à éviter toute confrontation directe avec les troupes nationalistes, puis japonaises, etc., à profiter, bien évidemment, des dissensions et de l'invasion japonaise, puis des défaites des nationalistes Chiang Kai-shek, etc., pour grossir à l'abri, en quelque sorte, des conflits qui opposaient
les uns les autres,
leurs ennemis, et pour petit à petit, donc, arriver, c'est la fameuse formule de Mao, le révolutionnaire doit être dans la population comme un poisson dans l'eau, hein, c'est-à-dire. Ça, c'est un trait caractéristique des guerres de partisans au XXe siècle, c'est-à-dire qu'il doit effectivement gagner la confiance et le soutien de la population.
Et c'est amusant parce que c'est une analyse qu'on retrouve chez Foucault au sujet du banditisme d'ancien régime, où il dit que, comme peut-être le savez-vous, que la délinquance est une création de la prison finalement et du pouvoir d'État, nouvelle mode, après l'ancien régime. Et justement que le contrebandier, alors il ne dit pas que le contrebandier était comme un poisson, était dans le peuple comme un poisson dans l'eau, mais maintenant c'est son analyse. C'est-à-dire qu'il dit que la plupart des truands d'ancien régime étaient protégés par la population parce qu'ils en faisaient partie. Et que d'une certaine manière, leur illégalisme arrangeait tout le monde. Enfin, sauf le pouvoir royal, évidemment. C'est amusant comme...
Mais t'es pas dans une logique de guerre dans ce cas-là.
Non, t'es pas dans une logique de guerre, mais en même temps t'es dans une logique quand même de conflit contre le pouvoir, enfin de conflit permanent contre le pouvoir. Mmh. Et son idée c'est que justement le pouvoir disciplinaire est apparu pour séparer les gens susceptibles de commettre des illégalismes de la population générale.
L'objectif de la guerre de partisans, c'est de prendre le pouvoir. Napoléon Smith, et c'est vrai en Espagne, c'est renverser l'occupant français en l'occurrence, c'est vrai en Russie, c'est vrai en Chine, et évidemment après la révolution russe et la révolution chinoise on a, d'après Smith, c'est le début effectivement de la vague de décolonisation, il y a désormais donc des leviers, la Chine et l'Union soviétique deviennent des leviers gigantesques en quelque sorte, de soutien évidemment des guérillas notamment anticoloniales partout dans le monde, donc on est dans les années 60, on est en plein milieu de ce cadre là. Et alors, le cas algérien, donc maintenant j'en viens à Galula, deuxième saison 2. ce que Schmitt fait pas de... Schmitt fait une théorie du partisan, et Galula, effectivement, en tant qu'officier français qui se prend pile sur pile en Indochine, puis en Algérie, il dit, ok, on a la théorie du partisan, maintenant on fait quoi ça. Et donc, manuel de contre-insurrection, alors là aussi il faut faire... intéressant là dans la présentation du bouquin, une petite précision sur le contexte des débats stratégiques à l'intérieur de l'état-major français au moment de la guerre d'Algérie. La théorie dominante, c'est pas celle de Galula, qui finalement a eu une influence minime sur l'état-major français, y compris après, il est revenu en grâce de manière assez récente. Le manuel qui fait référence à l'époque, c'est celui du colonel Trinquet, qui était membre de l'OAS après l'indépendance de l'Algérie, mais qui est en fait qui reste d'après Galula, qui polémique contre lui, prisonnier justement des cadres de la guerre conventionnelle classique. Et alors Trinquet, faut dire les choses quand même un peu précisément, c'est un de ceux qui a justifié de la manière la plus explicite l'usage de la torture. Donc à la fois le bombardement et la torture pour effectivement gagner la guerre du renseignement et la guerre de l'information. Alors Galula dit Trinquet il est gentil, il a compris qu'effectivement l'information est une pièce essentielle parce qu'on ne peut pas les battre sur le terrain. Les Fedaga, d'ailleurs, on ne les a pas battus. On ne peut pas les battre à découvert. Il faut les faire sortir de la population. Il faut les séparer de la population, alors qu'ils passent leur temps, justement, à y trouver refuge, parce qu'ils en viennent, parce qu'ils proposent un plan de libération qui leur vaut les faveurs de la population. Donc, la guerre du renseignement, c'est bien. Mais si on commence à torturer les gens, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On creuse, effectivement, l'antagonisme entre les guerriers de l'insurrection et ceux qui préfèrent appeler. C'est pas un grand théoricien, Galula, mais il a quand même une finesse de vocabulaire. Il dit tout de suite, dès les premières pages, il dit, alors écoutez, en face, on a effectivement des gens qui se réclament d'une cause. Alors ça va être la décolonisation, ça va être le communisme, ça va être la révolution mondiale. Ils ont une cause. Leur cause, elle est présentée de manière rhétorique brillante, etc., séduisante, etc. Comment on se définit en face? On peut pas se présenter comme des contre-insurrectionnalistes. Il dit, le terme, il faut le marteler, c'est celui de loyaliste. Voilà. Loyaliste, loyaliste, loyaliste. Donc, une guerre d'insurrection, mais en face, commencer à le mettre dans le crâne. Voilà. Des partisans et des loyalistes. Voilà. Nous, on joue du côté des loyalistes. Alors,
Mais il est contre la torture, en fait, du coup?
Il pense que c'est absolument pas indispensable dans la mesure où la torture a évidemment un effet pervers bien connu, c'est qu'elle crée des martyrs et qu'elle fait apparaître le loyaliste, si je reprends les termes de Galula, comme un parasite de la population, susceptible éventuellement de la mettre en insécurité, de torturer ceux qui parlent en son nom, de créer des sympathies. Et il dit au fond que la contre-insurrection, elle doit se penser, justement, elle est réactive forcément, c'est-à-dire qu'elle doit... Elle est obligée de s'adapter à la guerre qu'on lui fait, et qui est une guerre idéologique, politique, qui vise à gagner en fait une majorité dans la population. Alors il insiste quand même, c'est pas simplement une guerre qui se joue en interne, il dit que les contre-insurrections modernes, elles ont une particularité, les guerres de partisans, les insurrections modernes, elles ont une particularité au XXe siècle, c'est que la plupart, effectivement, elles s'inscrivent dans le mouvement de décolonisation. Mais c'est jamais des questions purement nationales, c'est-à-dire qu'elles ont toujours un soutien international. Et il dit que ça, le tiers extérieur, la puissance qui va soutenir, soit directement par, effectivement, les fournitures militaires, conseillers techniques, etc., ou soutien diplomatique, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'en interne, ça c'est une caractéristique de la guerre insurrectionnelle, en interne, il n'y a pas de règles, on est effectivement sur une lutte à mort irrégulière, à 1 contre 10, et du coup on peut taper dans le dos, et du coup, effectivement, on peut tricher, et du coup on peut mentir, et du coup on peut tenir les doubles discours, et voilà. Donc en interne, il n'y a pas de règles, mais par contre, en externe, là, il faut un soutien diplomatique qui suppose de tenir un discours politique classique et de mettre en avant, effectivement, une cause nationale, une cause politique, etc. Et donc ça, c'est la caractéristique des luttes de décolonisation. Évidemment,
selon lui,
et tu ne luttes pas contre ça avec la torture. Voilà.
Pourtant, les Américains, ça, ils l'ont pas retenu quand ils s'en sont inspirés de son manuel.
Sauf qu'ils ont toujours cherché à avoir une motion des Nations Unies pour justifier l'intervention, deux, un soutien diplomatique et quitte à l'acheter de la part des pays voisins.
Non, mais je veux dire sur la question de la torture.
Ah, la question de la torture, oui. Oui, bien entendu, oui.
Ils n'ont pas lâché.
Bah, ils n'ont pas lâché, mais.
Même en sachant que ça ne marchait pas, en fait.
Bah, Trinquier avait fait des émules.
Trinquier fait des émules, oui. C'est que Galula n'est pas le seul conseiller militaire.
Oui, parce que c'est les Trinquiers qu'on a exportés en Amérique du Sud, par exemple, pendant les années 70.
Alors,
les deux.
Trinquier, effectivement, a joué un rôle, mais ce n'est pas le seul. Hein. Il y a toute une partie de l'état-major qui a notamment joué un rôle auprès des états-majors américains, et effectivement auprès des états-majors sud-américains, notamment Pinochet, les colonels, etc., au moment des dictatures militaires des années 60-70. Hein. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est la manière dont, effectivement, dont il pose le problème. C'est-à-dire qu'au fond, alors là, il ne le dit pas, mais je crois qu'on peut le rattacher quand même. En fait, il dit, Galula est plus classique que ce qui paraît. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'au fond, il dit, l'enjeu essentiel, c'est de surtout pas se couper de la population. Surtout pas se couper de la population. Et il y a un seul levier qui permet de ne pas se couper de la population, c'est d'assurer sa sécurité. Il dit, la guérilla va nous livrer une guerre qui est essentiellement une guerre de légitimité. Une guerre de légitimité, il s'agit de déstabiliser la puissance occupante ou le gouvernement en place, etc. Et il dit la réponse qui doit obséder les loyalistes, de son point de vue, ça doit être celle d'apparaître comme ceux qui assurent la sécurité de la population. Et tu le fais pas en torturant des félagas, en tout cas, ou alors tu le fais de manière discrète.
Ouais. Voilà. Nous sommes la paix. Et voilà. Nous sommes là pour
exactement.
Vous. Donc,
exactement.
Voilà. Alors, on va faire une petite pause et José nous a sélectionné un autre morceau dont je vous parlerai après.
Tous les petits madames réveillent la gamme d'herbeau, mais ce qui part sera. Flotte avant l'assaut, il aime ses lourds refrains qui tiennent son cœur au chaud. Vive la madrée,
vive la nation
et vive la Canterbury. Ah ah, ah ah, bravant la peur et la mort, monsieur qui part roi du comptoir, c'est cru roi du tir au pigeon. Ah ah, ah ah, bravant la peur et la mort, monsieur qui part s'engage dans la Waffen SS. Du matin jusqu'au soir, la poudre et le tonnerre, le son qui part à gare, fait feu entre deux pierres, il s'annonce sa victoire, quand l'ennemi est à terre.
Vive la madrée,
vive la nation,
et les maîtres canterre.
Hey, smile, hey, smile, drive, fire,
sous un tata d'ossement, un cri s'envole sur la plaine.
Chargé,
monsieur qui part avant, retrache son aile de chaîne, et est chargé de sang, ses yeux remplis de haine.
Vive la patrie,
vive la nation,
et vive Lili Marlène. Ah ah, bravant la peur et la mort, monsieur qui part froid du comptoir, c'est cru roi du tir au pigeon. Ah ah, ah ah, bravant la peur et la mort, monsieur qui part s'engage dans la fuite de la Corse. Les éléphants au sens, au loin dans son viseur, monsieur qui part s'élance. Ploum, 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 il titube et il avance, insensible à la peur. Vive la patrie,
vive la nation,
Et vive la bonne bière qui plombe.
Et bure la gueule.
Ah ah, ah ah, bravant la peur et la mort, monsieur qui part roi du comptoir, c'est cru roi du tir au pigeon. Ah ah, ah ah, bravant la peur et la mort, monsieur qui part s'engage dans la Légion Condor. Les missiles déboulent et sur ses entrefaites, monsieur qui part s'écroule
un pruneau dans la tête, la lampe pendant qu'il roule vers son ultime bière. Vive la patrie,
vive la nation,
et vive les vers de terre. Ah ah ah, bravant la peur et la mort, monsieur Pipa, froid du comptoir, c'est plus roi du giron pigeon. Ah 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 ah, bravant la peur et la mort, monsieur Pipa s'endort, une médaille sur le corps.
Alors José, tu essaies de me tromper, c'est pas du René Binamé ça. Donc vous avez bien sûr tous okay. reconnu le Dick Van 88, Monsieur Pif Paf sur l'album Oulala 2, un album mythique, s'il en est. Voilà, donc pour tous ceux qui étaient jeunes à cette époque-là. Donc voilà, c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jean-Mathias qui continue à nous parler ses livres de nazis.
Enfin, je reprécise à chaque fois que je n'invite pas à soutenir l'édition nazie, mais que.
Mais
dans la grande tradition situationniste, on s'intéresse aux traités de stratégie, tactique, y compris militaire, pour comprendre la guerre.
Mais non, mais je t'oblige à préciser, parce qu'autrement, il peut y avoir
des ambiguïtés. Les auditeurs qui ont des doutes pourront écouter l'émission en podcast, voilà, pour avoir les deux premières parties. Alors, je reviens peut-être rapidement sur le livre de Galula, là, parce que c'est difficile de le commenter de manière un peu exhaustive, parce que c'est un traité qui est essentiellement technique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il essaye de décrire de la manière la plus précise possible les conditions dans lesquelles une insurrection se déclenche, quels sont ses atouts, quelles sont ses limites, ses faiblesses, comment justement l'insurrection va chercher à transformer ses faiblesses en atouts, voilà, l'importance d'une cause. Alors, il s'intéresse aussi, par exemple, le type de cause qui va marcher, celle qui va pas marcher, le type de pays dans lequel ça peut prendre, le type de pays dans lequel ça prend pas. Il y a des considérations géographiques voilà, que j'évoquais tout à l'heure, très, très précises. Voilà. Un pays qui, par exemple, a des frontières maritimes est moins enclin à basculer sur une insurrection. Par contre, un pays qui a des frontières terrestres, notamment des frontières qui sont relativement floues, qui sont difficilement contrôlables,
comme des bois, des jungles,
Vietnam, de Chine-Vietnam, évidemment, est plus favorable à cela. Un pays dont la géographie aussi est facile à compartimenter, il dit ça, c'est très important, sera plus facile à contrôler par ceux qu'il appelle les loyalistes, à savoir voilà, les dominants, voilà, disons le mot. La structure aussi, la répartition entre population rurale, population urbaine est décisive, c'est-à-dire que les populations rurales, un pays à majorité rurale, est beaucoup plus difficile à contrôler, parce que l'habitat est épars, parce que il faut mettre quelqu'un derrière chaque paysan. Des chiffres assez intéressants sur le cas algérien, là, où il disait, je retrouve ça, je donnerai ça quand j'aurai retrouvé tout à l'heure, où il donnait une idée, en fait, du taux d'encadrement administratif et policier de la population algérienne. Et c'est des chiffres qui sont assez troublants. Parce que, en fait, il disait que le maillage administratif français en Algérie, donc c'est trois départements, et en fait, il dit que l'encadrement de la population était, en fait, relativement fragile. C'est-à-dire que le dernier maillon de la chaîne de contrôle administratif et policier de la population, c'était ce qu'on appelait les douars, c'est-à-dire une espèce de garde champêtre avec un revolver à la ceinture avec marqué la justice sur l'étui, d'ailleurs, paraît-il. Et le douar, le dernier maillon, hein, il avait en charge, entre guillemets, la surveillance de 15 à 20 000 paysans. C'est-à-dire qu'il dit, évidemment, là, sur les villes algériennes sont restées sous contrôle français pendant toute la durée de la guerre d'Algérie. Il n'y a eu aucun problème à contrôler les villes. Par contre, évidemment, les campagnes et les zones montagneuses, chaotiques, etc., étaient beaucoup plus difficiles à contrôler. Donc il y a plein de considérations de ce type. Ce qui m'a intéressé, je reviens sur ce que je disais juste avant la pause, c'est l'enjeu que représente aux yeux de la contre-insurrection la sécurité, la sécurisation des populations. C'est-à-dire qu'il dit qu'en fait, l'insurrection gagne ou perd sur cette question-là. À partir du moment où le dominant, le loyaliste de départ, qui a tous les moyens à sa disposition au départ, c'est-à-dire la légitimité internationale, les forces militaires, les ressources, les stocks d'armes, la logistique, l'administration, la police, etc. Toute la puissance de départ perd à partir du moment où elle perd la capacité de sécuriser sa population, c'est-à-dire de donner à la population le sentiment que c'est elle qui sécurise. Hein, et ça, ça me paraît bon. Bah, c'est une idée qui, en même temps, n'est pas particulièrement originale, mais qui a mérité d'être claire. C'est-à-dire que tant que la population, la masse de manœuvre au sein de laquelle évolue l'insurrection, la guérilla, qui est largement minoritaire, sous-équipée, etc., tant que l'insurrection apparaît comme un facteur d'insécurité auprès de la population, l'insurrection n'a pas gagné. Voilà. À partir du moment où c'est la puissance occupante ou loyaliste qui apparaît comme le facteur insécurisant, la partie est perdue. Et donc effectivement la question ça détermine les moyens, ça détermine aussi les buts de guerre hein, dans un cas comme ça. Et ce qui me paraît intéressant dans cette affaire là, pourquoi ça nous intéresse nous libertaires, parce que on retrouve ici finalement une vieille théorie de l'État qu'on trouve chez Hobbes, oui. L'État moderne, selon laquelle la légitimité de l'État repose sur sa capacité justement à assurer la sécurité des individus et des personnes, à les sortir de l'état de guerre civile justement dans lequel ils se retrouvent s'ils sont livrés à eux-mêmes, d'après Hobbes. Et donc au fond, on mesure là voilà, à quel point ces questions-là pensent finalement le rôle de l'État, la fonction de l'État, la nature de l'État, en termes guerriers, en termes militaires. Et évidemment, la contre-insurrection, finalement, est toujours au cœur de cette question de la légitimité de l'État. Et finalement, ce qui nous dit, bon, c'est un peu des gros mots, mais l'enjeu d'une guerre de partisans, l'enjeu d'une insurrection, c'est la course à la légitimité. Hein, et celui qui gagne cette course à la légitimité... Qui est autre chose que le nombre de bombes dont on dispose, le nombre de balles qu'on va pouvoir envoyer, le nombre de morts qu'on va envoyer, le nombre de pertes qu'on va avoir. Celui qui gagne cette course à la légitimité gagne la guerre. Ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre quelques années, ça peut prendre 20 ans comme en Chine. Mais à partir du moment où effectivement la course à la légitimité est gagnée par l'insurrection, c'est terminé.
Parce que là, on ne tombe pas sur du Rousseau et son chapitre 3 du contrat social. Nul n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, il ne transforme sa force en devoir et l'obéissance. Sa force en droit et l'obéissance en devoir.
Mais ce qui me paraît intéressant, justement, de mettre ces deux textes-là en parallèle, parce que d'une certaine manière, on voit bien comment, quand Galula se retrouve confronté finalement à la question concrète de l'organisation militaire et de la stratégie, finalement, il montre que finalement, les idées de Schmitt sont peut-être pas si originales et si tenables que ça. C'est-à-dire que Galula part de Schmitt, effectivement, et du constat de la guerre de partisans qui est dressée par Schmitt, et finalement, il retombe sur des catégories qui sont des catégories finalement de la politique classique et voilà, c'est une manière, ce mouvement-là est intéressant, me semble-t-il. Bon, alors c'est plus un plaisir un peu conceptuel derrière ça, mais ça me paraît intéressant, c'est-à-dire de montrer, Galula retrouve finalement les cadres et les contraintes qui sont définies par la politique d'État dans les théories modernes de l'État en passant par justement la pratique de la contre-insurrection. Il part effectivement de Schmitt et de ce que Schmitt présente comme finalement une faillite de ces théories modernes de l'État, et puis finalement Galula les retrouve, parce qu'en pratique comment on gagne contre une guerre de partisans en refondant une légitimité étatique souveraine sur la sécurité des populations. Alors il y a évidemment les exemples plus récents montrent qu'il suffit pas d'avoir le manuel pour que ça marche, hein. Confère Afghanistan, confère Irak, confère un certain nombre d'exemples d'échecs retentissants. Mais évidemment, tout le volet humanitaire, juridique et sécuritaire qui a été développé dans les interventions militaires américaines et internationales ces dernières années, vous le retrouvez là. Je veux dire, il est intégralement.
Les militaires c'était un des types de Pétrarus d'ailleurs qui avait publié un manuel, des recommandations disant il faut gagner les cœurs et les esprits. Ouais. C'était le but avoué de la politique américaine en Irak.
Voilà.
Bon, ils ont échoué de façon assez spectaculaire, mais c'est le but.
Et c'est bien le but, c'est bien le but. Alors moi, il y a cette anecdote là toujours qui est mise en avant, qui est inspirée de la guerre du Vietnam, où effectivement déjà au Vietnam il y a ces tentatives de la part des Américains pour essayer de sécuriser les populations. C'est une anecdote célèbre, mais en même temps qui fait un peu froid dans le dos, alors là qui nous ramène plutôt du côté de Schmitt, je trouve. C'est cette anecdote des troupes américaines qui du coup cherchent précisément déjà au Vietnam à gagner le cœur de la population, et qui ont procédé à des campagnes de vaccination des enfants vietnamiens dans la jungle vietnamienne. Et la réponse du Viet Minh a été, quelques semaines après, d'arriver dans les villages en question et de couper le bras de chaque enfant vacciné. pour rappeler effectivement une espèce de, alors là pour le coup, d'hostilité primitive quoi, entre eux et nous, entre amis et ennemis, et disant qu'il n'y avait pas, voilà, c'était pas, on était dans une espèce de guerre absolue. Ça effectivement, ça tire plutôt du côté du côté de Schmitt, hein, c'est-à-dire une espèce d'hostilité radicale, hein, voilà. Et on voit en même temps, voilà, les difficultés auxquelles se trouve confronté une stratégie d'État dans ce type de situation là.
Et les populations prises entre deux feux.
Et les populations évidemment prises entre deux feux dans cette affaire là. Alors bon, donc je vous invite à lire ce manuel là, bon, pour voir comment ça résonne dans un état-major, c'est toujours bon à savoir. Et puis ça permet aussi, me semble-t-il, d'avoir une grille de lecture. Alors dans les situations d'insurrection ouvertes, voilà, type guerre coloniale, effectivement Afghanistan, Syrie, etc. Mais il me semble que c'est pas inintéressant non plus pour lire. Par exemple, la manière dont un État moderne, comme l'État républicain français, va gérer une situation de guerre contre le terrorisme, comme celle qu'on va connaître maintenant. Parce que l'enjeu de la question de la sécurisation de la population est évidemment essentiel aussi. Hein. Et donc la manière dont effectivement les sources ultimes, ce qui refonde finalement voilà l'autorité de l'État et puis son pouvoir de contrainte dans toutes ces dimensions, c'est toujours cette course à la légitimité là. Donc l'insurrection, voilà, qu'elle soit ouverte, déclarée ou larvée, est toujours un motif qui est disponible effectivement dans la petite trousse à outils d'un gouvernement pour contrôler sa population. Mais en général, alors est-ce qu'il faut du coup penser ça en dehors des, voilà, sur les catégories amis ennemis type Schmitt, etc. Je suis pas persuadé, bon, mais ça c'est, mais voilà, c'est un petit peu les questions en tout cas qu'on peut explorer à partir de textes comme cela, me semble-t-il.
Voilà, c'était Jeudi Noir, donc, avec Jean-Mathias au micro, Sophie, Michel, et puis José au platine, qui nous a choisi un tas de beaux morceaux. Et normalement, si José n'a pas essayé de m'enduire d'erreur, c'est un morceau de Tina Riwen.
Tout à fait.
Et donc, c'est des Touaregs ?
C'est ça.
Voilà. Donc, on se retrouve dans deux semaines avec un invité, si je ne me trompe pas, c'est Daniel de Chéri Bibi qui causera. Voilà.